La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Ce matin, vous nous emmenez à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, dans un quartier voué à la disparition.
Oui, une sorte de quartier expérimental qui a attiré des dizaines de journalistes américains ces dernières semaines à la faveur des manifestations contre les injustices raciales et violences policières. La CHAZ, pour zone autonome de Capitol Hill, ou CHOP, zone de protestation organisée de Capitol Hill, ce sont 6 pâtés de maisons dans les quartiers est de Seattle, donc, qui le 8 juin ont été érigés par quelques centaines de militants antiracistes, militants de gauche, comme une sorte de ZAD, un secteur où la police, critiquée pour son racisme systémique, n'a plus le droit d'entrer. Bien plus largement, écrit Ashton Weiss dans le Des Moines Register, CHAZ s'est devenu en très peu de temps un lieu sans pouvoir institué, mais un lieu voué à l'éducation populaire, au débat, à l'imagination collective et au partage, une espèce de quartier nuit debout pour ceux à qui ça rappellera encore quelque chose en France. Bref, un lieu d'espoir, de progrès, où faire communauté prend tout son sens, selon donc le quotidien de l'Iowa. Alors ça, c'est pour le côté pile, le côté brillant de l'expérimentation sociale et politique, en marge donc de la vague Black Lives Matter. Sauf que, si on parle aujourd'hui de CHAZ, ou CHOP, si vous voulez, c'est parce que la sénatrice et maire de Seattle, Jenny Durkan, vient d'annoncer dans le Seattle Times que la situation n'est plus tenable, ni pour les résidents, ni pour les commerçants du quartier, que la sécurité de tous est en jeu et donc que la police va devoir faire son retour, la nuit au moins, dans le grand commissariat de Capitol Hill qui a été muré depuis début juin par les zadistes. Pas question, assure en tout cas l'élu démocrate, de mettre fin à tout ce qui se passe en journée dans le quartier, mais la nuit, désormais, il va falloir que les protestataires replient les tentes et les estrades, quittent pacifiquement les lieux pour laisser donc les policiers reprendre le contrôle.
Il faut dire que ces derniers jours, le quartier autogéré a connu une poussée de violence.
Et toujours en lisant le Seattle Times, on apprend que le week-end dernier, 2 fusillades ont éclaté une nuit après l'autre dans les rues de CHOP, faisant 3 victimes, dont un jeune homme de 19 ans qui a perdu la vie dans cette fusillade. Ce qui a choqué forcément la presse conservatrice, à commencer par la chaîne Fox News, ce sont ces images tournées par des policiers qui ont tenté de se rendre sur les lieux des coups de feu mortels pour secourir la victime et qui en ont été empêchés, repoussés aux limites extérieures du quartier autogéré par ses occupants. Immédiatement, les commentateurs de Fox News y ont vu un exemple criant de ce que produit fatalement, selon eux, le laxisme et l'angélisme des gauchistes de Black Lives Matter avec la complicité des démocrates. Et même le New York Times reconnaît, je cite, que ces fusillades mettent à l'épreuve la zone zéro police de Seattle. Mais faut-il vraiment s'étonner que la violence armée qui existe partout ailleurs aux États-Unis ait fini par s'inviter aussi après plusieurs semaines dans les rues de CHAZ? Ce qui est sûr, d'après la radio locale KUOW-FM du réseau public NPR, c'est que ces rixes nocturnes du week-end passé contrastent fortement avec l'ambiance chaleureuse et pacifique de CHOP en journée. Les organisateurs du quartier, pour autant qu'il y en ait, laissent entendre que les fusillades auraient pu être déclenchées par des militants d'extrême droite venus provoquer des troubles, mais ils n'en ont, pour l'instant, il faut bien le dire, pas apporté la preuve. En attendant, la police nous confirme que le Seattle Times devrait faire son retour la nuit prochaine à Capitol Hill. Reste à savoir l'accueil qui sera réservé à ce couvre-feu nocturne par les zadistes de Seattle.
Et puis en Italie, l'épidémie, la pandémie fait souffler un vent de changement sur la droite de la droite.
Les conséquences politiques inattendues de la crise sanitaire à la Lega, le parti d'extrême droite italien, le magistère de Matteo Salvini semble fragilisé d'après Greta Privitera qui consacre sur Politico Europe un long portrait à la figure montante de l'extrême droite italienne. Donc j'ai nommé Luca Zaia, le grand vainqueur de la Covid-19 dans les médias et dans une bonne partie de l'opinion publique en Italie. C'est lui, le gouverneur de Venise, qui a réussi à limiter dans sa région les ravages du coronavirus. Derrière le chef du gouvernement Giuseppe Conte, il est devenu, en quelques semaines, selon les sondages d'opinion, le deuxième homme politique préféré des Italiens. Quand les autres présidents de régions d'Italie du Nord sont accusés de négligence et d'incompétence meurtrière, Luca Zaia, lui, est devenu l'autorité que l'on écoute et dont on suit les décisions sur le déconfinement, par exemple. Et chacune de ses conférences de presse quasi quotidiennes est abondamment relayée par les journaux transalpins. Pendant ce temps, poursuit l'article de Politico, L'étoile de Matteo Salvini s'est plutôt ternie hein, pendant la crise sanitaire. Faute de fonction politique territoriale, il a été vu comme hors-jeu, sans prise sur l'urgence de ce mal qui frappait les Italiens. Les médias se sont désintéressés de lui. Résultat, les mêmes sondages qu'il donne 15 points derrière Luca Zaia en termes de popularité indiquent que si le gouverneur de Venise menait la Lega aux prochaines élections générales, eh bien le succès serait beaucoup plus garanti qu'avec Salvini comme tête de liste.
Et la personnalité de Luca Zaia intéresse également le Financial Times.
Oui, le Financial Times qui début mai déjà annonçait que ce héros politique de la lutte contre le coronavirus commence à faire sérieusement de l'ombre à Matteo Salvini. Le journal britannique remarquait déjà à l'époque que le parcours et la personnalité du Vénitien rassuraient beaucoup plus de monde à la Lega que celle de Salvini, incarnait en tout cas bien le virage centre-droit que semble vouloir prendre le parti quand Salvini, lui, reste très marqué à l'extrême droite. Pour répondre à toutes ces ambitions que d'autres nourrissent pour lui, Luca Zaia multiplie les interviews dans la presse italienne comme dans la Stampa ce week-end où il clame qu'il n'a pas d'ambition ni au sein du parti ni pour conquérir la présidence du conseil et que Matteo Salvini donc peut dormir sur ses deux oreilles. Pour le moment, il affirme se concentrer sur sa réélection à la tête de la Vénétie avec le soutien de Salvini qui en échange attend de lui une loyauté politique absolue. Luca Zaia, conclut le Corriere della Sera, se complaît dans son rôle de bon gestionnaire politique territorial, d'homme d'action et d'idées fortes. Il promet de tout donner pour arracher à Rome plus d'autonomie politique pour Venise et pour sa région. Ce combat lui suffit pour le moment, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Jusqu'à quand? C'est toute la question.